pouvez vous asseoir. C'est une grande occasion de revenir encore ce soir et une grande bénédiction qui m'est donnée de revenir et de vous parler de notre Seigneur Jésus, que vous connaissez pour la plupart, j'en suis sûr, ou du moins je l'espère, par le pardon de vos péchés, par sa grâce qu'il a manifestée envers vous, et puisse-t-il vous donner ce soir encore une plus de grâce. Quand nous partirons, que nous puissions dire comme ce revenant de Maïs, notre cœur brûlait au-dedans de nous alors qu'il nous parle en chemin. Maintenant, tout le matin, je crois qu'on a un homme qui se charge des relations publiques, quelque chose comme ça. Frère, que voici maintenant, un exposé ira en quelque sorte aux questions, il parle des écritures. Est-ce que ça a eu lieu ici, dans ce bâtiment, ici même dans ce bâtiment? Alors, si les gens sont disponibles, si le ministre ou autre aimerait pouvoir faire initier avec tout le monde, il est bienvenu. Frère Veil est un enseignant très profond, vraiment, il a une solide instruction. Et comme je le disais l'autre jour, je voudrais bien avoir de l'instruction. Je suis obligé d'employer des paraboles, quelque chose comme ça, pour expliquer, pour savoir. Je n'ai pas assez d'instructions pour décortiquer les choses, mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur m'aide à les transporter. Alors, je me rappelle qu'à un moment donné dans l'Écriture, il y a eu un homme du nom de Jean, et son père était sacrificateur. Habituellement, ils suivaient les traces de leur père, mais lui, il avait réellement un message et il devait annoncer le Messie. Or, s'il était allé à l'école, son père avait fréquenté, il n'aurait pas dit, il aurait lui demandé, tu connais les messieurs certains? Il est allé au désert et il a été instruit par Dieu. Avez-vous remarqué le message avec lequel il est ressorti? Il n'a jamais été fait d'études. Il est allé au désert à l'âge de 9 ans, il est rentré à 30 ans pour prêcher son message. Nous voyons qu'il employait. Par exemple, les pharisiens sont venus, Sadducéens, il a dit, race de vipères, ce qu'il avait vu dans le désert. Les serpents, quelque chose qui est sale, vicieux, trompeur. Bon, quelqu'un aurait peut-être dit élément incommodant de bon âge. Vous voyez, il ne connaissait pas les termes employés, alors il a simplement dit race de vipères. Il a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne vous mettez pas à dire, là, nous avons fait partie de ça, nous faisons partie de ça. Car Dieu peut susciter de ses pierres des enfants à Abraham. Et la cognée mis à la racine de l'arbre, il savait quoi faire, quoi mauvais. Tous ceux qui produisent pas les bons fruits sont coupés et jetés au feu. Nous voyons, vous voyez, tout son message, il a présenté en utilisant comme modèle les éléments de la nature. Les gens du peuple le comprenaient. Et des fois, je trouve que c'est peut-être un peu mieux de faire ça plutôt que d'employer tous ces grands mots que les gens emprunt à l'école. Hier soir, nous avons dépassé un peu le temps, alors nous allons tâcher de vous laisser aller ensemble un peu tôt. J'espère que le Seigneur ne permettra pas que la pluie tombe trop fort ce soir sur ce toit ondulé, alors nous allons simplement croire et enfoncer. Maintenant, levons-nous alors que nous lirons la parole de Dieu. Que nous lirons maintenant dans les livres de Genèse. Nous commençons au verset 22, au verset 7, et nous lirons jusqu'au verset 14 inclus. Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père, et il dit, me voici, mon fils. » Et il dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Et Abraham dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils allaient les deux ensemble. Ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham bâtit l'autel et arrangea le bois. Et il y a son propre fils et les mit sur le bois. Abraham étendit sa main, prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, Abraham, Abraham, Abraham. Il dit, me voici. Et il dit, n'attends pas ta main sur l'enfant, n'étends pas sur lui, car maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu as refusé. Ne m'a pas refusé ton fils unique. Et Abraham leva ses yeux et vit, et voici, il y avait derrière lui un bélier retenu au buisson par le corps. Et Abraham alla et prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham appela le nom de celui-là Jéhovah Jireh. Comme on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel y sera-t-il pourvu. Inclinons la tête un instant pour prier. Notre Père Céleste, il nous est dit par cette parole qui est Dieu, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et maintenant, Père, nous te prions de nous donner le contexte de cette lecture pour que nous puissions apprendre, car il nous est dit par la Bible que toutes ces choses de l'époque de l'Ancien Testament ont été des exemples, pour que nous puissions voir ceux qui obéissent à l'appel de Dieu sont bénis, ceux qui les rejettent sont maudits. Donc nous prions, Père, qu'il nous soit donné de comprendre ce soir par la révélation, puisse le Saint-Esprit nous révéler ces choses qui nous concernent en ces jours-ci. Toutes ces choses étant cachées dans ces grands mystères de Dieu qui subsistent depuis la fondation du monde. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais parler de ce sujet, si le Seigneur le veut, tirer ma réflexion de ceci. Jéhovah Jireh. Ce mot veut dire Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice. Nous parlons d'Abraham et ceci a eu lieu à l'époque où il attendait un fils promis. Pour trouver la vérité vraie là-dessus, nous allons retourner en arrière ici. On était au chapitre 20. Nous voulons faire un petit retour en arrière. J'ai noté ici quelques passages de l'Écriture auxquels j'aimerais me reporter si possible. Je vais parler de ces passages et je vais commencer au chapitre 12. Nous allons retourner en arrière pour voir qui est ce personnage Abraham et aussi comment se fait-il que Dieu l'ait choisi. Nous savons que la promesse a été donnée à Abraham et à sa postérité après lui. Et il nous faut être en Abraham pour pouvoir être héritier avec lui par la promesse. Or, Abraham a eu une postérité, et la postérité, évidemment, c'était, il a eu beaucoup de postérité, mais il a eu une seule postérité à qui s'adressait la promesse. Il a eu Ismaël, et puis après la mort de Sarah, il a épousé une autre femme, il a eu sept fils, sans compter les filles. Et tous ceux-là sont la postérité d'Abraham, mais sont les postérités d'Abraham, mais la postérité, c'est celle qui a reçu la promesse, et la postérité, en effet, c'est la foi d'Abraham qu'il avait dans la parole. Or, Abraham, nous constatons, c'est seulement ici que nous le voyons apparaître au chapitre 11 de la Genèse. Nous voyons que son père était venu de Babylone. Et Abraham n'était qu'un homme ordinaire, comme vous et moi, ou n'importe qui d'autre. Il devenait un homme assez. Il avait 75 ans. Il était âgé de 75 ans. Il avait épousé sa demi-sœur. Son nom était Sarah. Lui, son nom à cette époque-là était évidemment, ce n'était pas Abraham, c'était Abraham. Et elle, son nom était Sarai. Alors nous voyons qu'elle était de 10 ans plus jeune que lui. Elle était donc âgée de 75 ans et lui de 65 et lui de 75 ans. Probablement qu'il était fermier, il vivait là-bas dans la vallée de Shinéa, menait une vie ordinaire. Probablement que pendant les journées, il sortait pour aller chercher sa viande dans la brousse et cueillir des baies. Et il menait ce genre de vie là-bas. Il n'était qu'un homme ordinaire, il n'avait rien de spécial. Mais un jour, Dieu l'a appelé. C'est ça qui a fait la différence. Quand Dieu l'a appelé, c'est la même chose pour n'importe quelle vie. Il faut que ce soit Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que Dieu fait. Vous voyez, vous dites, j'ai cherché Dieu, vous vous trompez. Aucun homme ne cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Vous voyez, ce n'est pas vous qui cherchez Dieu, c'est Dieu qui vous cherche. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Vous voyez, donc vous avez été choisi dès avant la fondation du monde. Sinon, vous n'avez pas été choisi du tout. Et tous ceux dont les noms ne sont pas dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, ce sont ceux qui y seront de même manière. Voyez, vous avez été choisi en lui avant la fondation du monde. Lorsque l'agneau a été choisi, alors vous avez été choisi avec lui. Et vous êtes, comme je le disais hier soir, un attribut de la pensée de Dieu. Voyez, c'est la seule façon pour vous d'être éternel. C'est la seule forme de vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est Dieu, donc, c'est tout celui. Alors, nous voyons qu'Abraham occupait cette position et Dieu, dans l'Ancien Testament, exécutait des types et des ombres pour montrer ce qu'il allait faire. Alors, nous voyons ici que Dieu lui a parlé. Et ce qui est remarquable, c'est qu'après que Dieu l'a appelé à l'appel de Dieu lui a adressé que Dieu lui a adressé était surnaturel. Malgré tout, Abraham n'en a jamais joué en aucun moment. Il a toujours su que c'était Dieu. C'est que les appels de Dieu sont surnaturels. Il n'y a rien de naturel. Dieu emploie le surnaturel et il n'existe pas des choses naturelles, mais les appels de Dieu sont naturels. La Bible dit que les dons et les appels sont sans repentir. Vous voyez, ils ont été prédestinés par Dieu. Maintenant, là-dessus, nous voyons qu'Abraham, qui avait été appelé, il a entendu la voix de Dieu et celui-ci lui a dit quelque chose qui était presque totalement impossible. Il était âgé de 75 ans, sa femme est âgée de 65 ans, elle était donc déjà ménopausée depuis une vingtaine d'années. Il avait vécu avec elle depuis qu'ils étaient une jeune fille, pourtant il lui a dit qu'ils allaient avoir un enfant et que c'est à travers de cet enfant que le monde entier, que toutes les nations seraient bénies. Or ça c'est étrange, et Abraham nous dit dans la Bible, Romains 4, « Et ne douta point ». Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. J'imagine qu'au bout du premier mois, évidemment, Sarah, comme je le disais, était déjà ménopausée. Le premier mois, j'imagine qu'Abraham a dit, Sarah, comment te sens-tu, chérie? Par des changements. Eh bien, Dieu soit béni. Nous allons avoir cet enfant de toute façon. Nous allons l'avoir sur un certain. Sarah a tricoté. Elle s'est préparée pour, parce qu'elle savait qu'elle allait avoir l'enfant. Dieu l'avait dit. Et la première année passée, tu te sens. Tu sens un changement, chérie? Gloire à Dieu, ce sera un grand miracle maintenant, ce que ça allait au départ. On va l'avoir de toute façon. Pourquoi? Dieu l'a dit, ça règle la question. Dieu l'a dit. 10 ans ont passé, comment te sens-tu, chérie? Les voilà 75 ans. Et lui en 85 ans. Maintenant, vous pouvez voir, imaginez un jeune homme et une vieille femme et un vieux homme aller dans l'hôpital et demander, « Docteur, nous voulons prendre des dispositions nécessaires. » Dieu vous demande de croire des choses qui sont de plus ridicules. Une personne qui croit en Dieu a un comportement carrément insensé aux yeux du monde. Pouvez-vous imaginer Moïse qui a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, le chef de l'armée, des armées de l'Égypte, et bien qu'il lui a fallu 40 ans pour atteindre ce niveau de formation, diable a mis 40 ans à faire sortir de lui cette instruction. Exactement comme une autre 40 ans pour qu'il arrive à débarrasser complètement de sa formation, à faire de lui. Il a rencontré derrière les désirs après avoir été 5 minutes. Dans la présence de Dieu, il en savait plus sur Dieu qu'il en avait appris en 40 ans. On ne connaît pas Dieu par l'instruction, on le connaît par la foi. Dieu lui a parlé d'une façon surnaturelle. Comme c'est ridicule. Vous pouvez vous imaginer une vieille personne de 80 ans qui fouillait un prophète, un vieillard à la barbe qui descendait très bas comme ceci, son crâne chauve qui lui faisait un bateau par et sa femme assise à la califourchon sur un millet avec un petit sur le. Je m'en vais en Égypte prendre le contrôle. Vous voyez, prendre le contrôle. Une invasion par un seul homme, ça semble ridicule, mais c'est ce qu'il y a. C'est qu'il a réussi parce que Dieu l'avait dit, ça règle la question. Quand Dieu le dit, un point c'est tout, ça règle la question. Si vous pouvez y croire, accrochez-vous de toute votre. Si vous n'y croyez pas, tenez-vous-en de loin. Ça vous ferait du mal. Mais si vous y croyez, tenez-vous-en. Donc nous voyons qu'Abraham ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Et quand il était âgé de 100 ans, elle avait 90 ans, je peux l'entendre. Il peut dire, eh bien, Sarah, ma chérie. Eh bien, tu as senti quelque chose, mon cher? Non, je ne sens pas de changement. Alléluia, nous l'avons la voix de toute façon. Dieu l'a dit, un point c'est tout, et Dieu a donné la promesse. Il disait qu'il avait la pleine conviction que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis. Et maintenant, nous prétendons être la postérité d'Abraham. Sa postérité royale, pas la postérité d'Isaac, sa postérité royale, Christ. Et nous doutons au sujet de chaque promesse. Nous faisons un tas d'histoires à ses propos et nous disons qu'il n'en est rien. Et moi, je doute que nous soyons la postérité d'Abraham si nous sommes comme ça. La postérité d'Abraham ne doute de rien. Elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient parce que Dieu l'a dit. Il est un créateur, il peut en produire la réalité. Il a produit, c'est réglé. Un point, c'est tout. Quand Dieu le dit, ça règle toute l'affaire. Maintenant, souvenez-vous, il lui a dit, une autre chose qu'il lui a dit de faire, c'est de se séparer de sa parenté, de tout son peuple. Dieu, pour pouvoir se faire obéir d'un homme ou d'une femme, d'un garçon ou d'une fille, il faut que vous vous sépariez de toute incrédulité. C'est vrai. Et si bien que vous en arriviez à vous séparer totalement de tout ce qui est contraire à sa parole et que vous y croyez. Et Dieu exige une séparation totale. Comme c'est différent aujourd'hui dans nos écoles qui envoient les ministres et leur facile de servir de toute espèce d'incrédité de théorie qui ne sont pas et qu'un credo quelconque qu'elle fabrique de toutes parts et ensuite elle les envoie fondées sur le principe là. Ce n'est pas étonnant qu'on ait fait éclore une bande de voile de Jacques et ainsi de suite. Le communisme envahit les pays parce que nous avons des séminaires et des prédicateurs produits par incubation, plus que le Fils de Dieu envoyé, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, né de feu. Les enfants d'Abraham qui croient que la parole de Dieu est indiscutablement la vérité, rien que la vérité, qui sont robustes et qui peuvent s'en tenir aux promesses envers contre tout, et soutenir vraiment ce que la vérité est la parole de Dieu. Alors il a dit, sépare-toi de toute ta parenté, de tout ton peuple, de tout, et suis-moi. Et Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Dieu est le Dieu immuable. La manière dont Dieu fait quelque chose est une fois, c'est de cette même manière qu'il doit le faire deuxième fois. Souvenez-vous, quand on peut voir qu'elle a été à l'action. Si un homme était perdu et qu'il ait été sauvé, un homme en vertu d'une certaine décision qu'il avait prise, alors il devra s'en tenir à cette décision à tout jamais. Il ne peut pas la modifier. Ouais, il est infini. Nous sommes limités. Je pourrais avoir plus de connaissances demain que je n'en ai aujourd'hui. Vous aussi, vous pourriez en avoir plus de connaissances l'an prochain. Vous avez plus de connaissances cette année que vous en avez l'année passée. Mais pas Dieu. Il est parfait, infini. Tout ce qu'il fait est parfait. Il ne peut, sa première décision est parfaite. Par conséquent, tout ce qu'il dit, vous pouvez vraiment vous y accrocher de toute votre âme. C'est la vérité. À un moment donné, il a fallu que Dieu prenne une décision sur le moyen de sauver l'homme. Et le moyen par lequel il a fait, c'était sur le sang versé d'un innocent dans le jardin d'Éden. Et l'homme a essayé par tous les moyens imaginables de sauver l'homme autrement. Ils ont bâti des villes, ils ont bâti de tout, ils ont fait des orientations, des programmes pédagogiques et tout le reste. Et tout ça, c'est un fiasco total. Il n'y a qu'un seul moyen par lequel Dieu sauve l'homme, c'est toujours par le sang versé d'un innocent. C'est le seul moyen, c'est ce qui a été à la première décision de Dieu. Il la maintient pour toujours. Et si Dieu un jour guérit un homme, d'une façon, le suivant, il se trouvera dans cette situation. S'il ne le fait pas, alors il s'est trompé quand il a agi la première fois, au même moment. Si jamais il prend une décision, il doit s'en tenir à cela pour voir toujours. Alors, voyez, et qui peut dire que Dieu a pris une décision mauvaise, voyez? Nous ne pouvons pas dire, donc Dieu doit maintenir sa décision pour toujours. Donc il a dit, sépare-toi de toute ta parenté, de tout, de ton incrédulité qui vient de là-bas, de Babylone. La première grande occasion qu'il ait jamais eu dans ce monde. Et quand elle a organisé toutes les villes qui devaient payer une tribulation. Et vous comprenez, je vous constaterai que la Genèse est le commencement et la semence. On y voit tous ces ismes et tout, ils sont là déjà. Vous voyez les pharisiens, guendés, c'est de là qu'ils sont venus. Et cette femme qui utilisait des racines magiques et tout ça, ils se sont retrouvés là au jour de Jésus. Les pharisiens ne croyaient pas à l'esprit, ni rien, ils faisaient tout. Jésus a dit, laissez-les, si elles avaient conduit un enfant, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Il a quand même continué à prêcher, il a guéri les malades et accompli les malades. Ce ne l'a pas arrêté parce qu'il était la parole continue quand même, quoi qu'il arrive. Donc nous voyons que ces choses suivent selon leur, elles atteignent finalement leur plein développement. De même que Jeanne et ses jambes sont posées à Moïse, ce sera la même. Donc une séparation totale de toute incrédulité. Et souvenez-vous, Abraham, le patriarche, n'a jamais été pleinement et parfaitement béni tant qu'il n'a pas obéi à la lettre à ce que Dieu lui avait dit de faire. Et jamais, jamais, jamais nous ne serons bénis et n'aurons de bénédiction tant que nous n'obéirons pas à ce que Dieu nous a dit de faire. Une autre chose que je voudrais vous faire remarquer ici au chapitre 12, c'est que l'alliance est entièrement inconditionnelle. C'est sans aucune condition. Moi, j'ai, non pas si tu, mais si en était exclu, moi, je l'ai déjà accompli. Il a donné l'alliance à Abraham sans condition. Or, vous savez, dans l'alliance faites avec avant, c'était si tu ne touches pas à cet arbre, alors je ferai telle chose. Mais si tu shoots, tu touches, alors je ferai faire celle. Vous voyez, cela a été lié à une loi. Mais dans celle-ci, j'étais déjà établi père d'une multitude de nations. Et elle est entièrement inconditionnée. Cette alliance, c'est la grâce à l'état, puis la grâce, rien d'autre. La seule chose qu'ils avaient à faire pour cette alliance reste en vigueur, c'est de rester et de demeurer dans le pays. Alors, toutes les bénédictions attachées à l'alliance des accompagnés, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de rester dans ce pays. Or, nous constatons, quand ils sont descendus, ils ont perdu leur bénédiction, mais pas leur alliance. L'alliance était toujours là. Ils ont perdu la bénédiction ainsi, mais pas leur alliance, parce que leur alliance, c'était la grâce en condition. Et dans Exode 19, Israël a fait une des pires gaffes qu'il ait jamais fait quand il a refusé la grâce et qu'il a accepté la loi. Regardez ce que la grâce avait accompli. La grâce leur a fourni un libérateur, il leur a fourni un prophète avec une colonne de feu pour le confirmer, avec une parole confirmée. Il y avait l'agneau du sacrifice. La grâce leur avait donné un grand réveil. La grâce les avait fait traverser, avait ouvert la mer Rouge et les avait fait traverser. Les avait délivrés par les signes et les prodiges. Tout cela par la grâce, mais ils voulaient quelque chose qui leur permettait de faire. Or, ça, c'est bien les gens aujourd'hui, c'est exactement ça. Il faut toujours qu'il intervienne quelque part. Et c'est là qu'Israël a fait sa grande erreur, quand il a rejeté la grâce écolier de cela et il a pris la loi. Mais quand même, l'alliance qu'il avait faite avec eux restait toujours inconditionnée. C'est encore la même chose aujourd'hui, nous laissons constater. Abraham, alors après que ces conditions lui ont été dictées, il s'est mis en route à avancer. Donc, nous voyons qu'il est parti. Et au chapitre 13, il est enfin arrivé à une entière obéissance à Dieu. Là, nous voyons qu'au chapitre 13, au début, il avait son père avec lui. Le vieillard toujours était un peu un obstacle. Il avait essayé d'amener un groupe de gens qu'il avait. Et quand vous faites ça, là, ça y est, Dieu dit, c'est par toi. Eh bien, je dois vous dire qu'il ne croit pas tout à fait, mais alors éloignez-vous. C'est là la seule chose à faire. Tenez-vous loin de ça. Alors le vieillard, finalement, après qu'ils l'ont enterré, alors c'est l'autre qui est devenu le chevet dans le pain. Nous voyons qu'il s'est mis à murmurer, tous les deux étaient enrichis. Et nous voyons que l'autre là, il s'est mis à quereller et ses bergers contre les bergers d'Abraham. Nous voyons qu'il n'avait pas, que Dieu n'avait pas trouvé entière fidélité chez Abraham pour ce qui est d'obéir à ce qu'il lui avait dit de faire, se séparer complètement de toute sa parenté, de tout son peuple et le servir lui. Et nous voyons donc que Dieu avait parlé à Abraham au lieu où il était à l'autel et lui a dit de ce qu'il allait faire. Finalement, l'autre, lorsque le poing était soulevé entre Abraham et l'autre, celui-ci était le fils de son frère Aaron, et donc c'était son neveu. Et finalement, il a dit que, alors, nous sommes frères et qu'il n'y a pas de querelle entre nous. Maintenant, toi, tu vas à l'est, j'irai à l'ouest, et tu vas à l'ouest, j'irai à l'ouest. Maintenant, tu n'as qu'à faire la séparation entre nous. Et il y a suffisamment, et tu n'as qu'à faire ton choix. Or, ça, c'est l'esprit des chrétiens du véritable. De donner même à l'ennemi le privilège de choisir, quand il a laissé prendre le premier chemin. Et l'autre, comme étant tant de gens aujourd'hui, vu la possibilité qui s'offrait à lui, s'il pouvait déroger de cette unité de principe, eh bien, alors il se ferait peut-être quelques doigts, il serait peut-être un homme populaire. Donc il a regardé là-bas en direction de Somme, c'était une contrée bien arrosée, une grande ville où s'était développée une portée d'industrie. On faisait des exportations et puis en plus là-bas, le monde d'unité ne manquait pas, des femmes toutes maquillées à la Jézabel, tous, on se payait vraiment du bon temps. Son épouse aussi, nous voyons qu'après qu'il est devenu maire de la ville, là-bas, elle, ça lui plaisait bien, le monde. Et c'est tout ce qu'il vous faut faire, être mêlé à quelque chose, oui. Dieu veut que vous sépariez, que vous éloigniez de ces choses-là. Mais il n'y a qu'une seule chose que vous voudrez voir, c'est lui et qu'il apporte. Mais Madame Lot, elle, ça lui plaisait bien, sans doute qu'elle avait dit quelque chose. Mon chéri, j'arrive là-bas et regarde ces jeunes filles là-bas, regarde comme ces jeunes filles de Judée. Tu ne trouves pas qu'elles sont plus modernes? Oh là là! Voilà ce que nous constatons. Mais voilà, Abraham s'en était mis à la promesse. Ensuite, voyons, ça s'est pourri. Ils se sont séparés et alors, et Abraham a pris la terre peu productive, le chemin modeste. Il est resté là-bas et il n'y avait pas beaucoup de pâturage pour son bétail. Mais il était prêt à prendre le chemin parce que Dieu l'avait placé dans ce pays. Et c'est là qu'il voulait rester. Il était prêt à prendre ça. Maintenant, quand enfin il a entièrement obéi à Dieu, quand Enfin, il est parvenu à une entière obéissance envers Dieu et qui s'est séparé complètement. C'est là que le Seigneur lui avait apparu de nouveau. Tant qu'il n'a pas fait ça, le Seigneur est resté éloigné d'Abraham. Mais quand il a entièrement obéi, alors l'autre, Dieu lui a apparu et il a dit, Abraham, lève les yeux, regarde vers l'est, regarde vers l'ouest, regarde vers le nord, regarde vers le sud, tout cela t'appartient. Amen. Voilà, et oh, j'aime ça. Vous savez, c'est un peu comme quand j'ai été sauvé. J'avais toujours entendu dire que Dieu était un grand. Et vous savez que quand j'ai sauvé quelqu'un, dit maintenant tout ce qui a tout. Et d'inscrire ton nom sur le juriste de l'église et l'église baptiste, c'est tout ce que tu as fait. Mais vous savez, un jour, j'ai vu que j'étais héritier de quelque chose. Alors, j'ai voulu examiner tout ça pour voir ce que j'avais. Vous savez, moi, je suis comme ça. C'est comme une grande galerie marchande dont vous êtes le propriétaire. Vous ne savez pas ce que vous appartenez. Jusqu'à ce que vous mettiez à parcourir la Bible, vous découvrez. Alors, ils vous entendront éloigner, ils ne sont le peuple et le sont à vous. Chaque promesse est pour Abraham et pour sa postérité après lui. Amen. Chaque personne, chaque promesse divine contenue dans la parole appartient à Abraham et à sa postérité. Vous en êtes héritier, un héritier. Oh là là, j'aime examiner tout ça pour voir ce que j'ai. Si quelqu'un me donne quelque chose, j'aime examiner ça. J'aime parcourir la Bible pour voir ce que la Bible dit. C'est ce que devait faire chaque descendant d'Abraham une fois que vous êtes né de nouveau, rempli de l'Esprit et que le Saint-Esprit sur vous, vous êtes héritier de chaque de ces promesses, chacune de ces promesses. Vous savez, c'est comme je disais, une grande galerie marchande. Nous sommes baptisés dans une seule, dans un seul esprit pour former ce corps. Et ce corps, c'est Christ qui est la postérité royale de l'homme. Et nous sommes héritiers de tout ce qui est contenu. Tout ce qui est en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Tout ce qui est en Christ, il l'a déversé dans le croyant. Amen. Dieu au-dessus de tout, Dieu avec nous, Dieu en nous, tout. Chaque promesse contenue dans le livre est à vous. Si vous pouvez la croire, si vous avez assez de foi pour l'accepter et le croire. Vous savez, en explorant du regard, si je vois quelque chose qui est un peu pas, et que je me demande ce qu'il y a là, alors je prends une chaîne. C'est pareil pour une promesse contenue dans la Bible. Si quelque chose me semble un peu, je prie sans cesse jusqu'à ce que j'atteigne cela. C'est tout. C'est comme ça ce qu'il faut. Continuez à prier. Continuez à vous grimper à quoi? Jusqu'à ce que vous êtes héritier. Vous avez la promesse de ça et vous y avez. Et demandez, vous recevez car tout est possible à ceux qui croient. Donc nous croyons, nous voyons qu'Abraham a parcouru le pays. Dieu lui a dit, il a dit, parcours le pays, examine-les, tout ce qui se trouve ici t'appartient. Il est tout à toi, d'un bout à l'autre, tout cela t'appartient. Alors nous voyons ensuite qu'au chapitre 14 de l'Exode, maintenant, chapitre 14 de Genèse, pardonne-moi. Qu'au chapitre 14 de la Genèse, Abraham et Lot s'étaient séparés et Lot a fini par avoir des ennuis. Et vous en aurez toujours quand vous vous séparez des croyants. Vous séparez des croyants, vous aurez des ennuis. Nous voyons que les rois qui s'étaient alliés les ont alors fait la guerre. Ils sont descendus là-bas, ils ont pris Sodome, ils ont pris Gomorrhe, ils ont enlevé tout et ils ont enlevé l'autre et seulement un petit nombre de personnes ont fui dans les montagnes. Et à ce moment-là, un fouilleur est venu annoncer à Abraham, l'hébreu, en disant Sodome est tombé. Gomorrhe aussi et tout ça, ils ont enlevé tous les gens et tout leur vivre et tout ce qui et ils ont enlevé l'autre et sa femme et ses filles, toutes les femmes, et ils sont partis avec tout cela. Et maintenant, Abraham, observez cet esprit chrétien. Il les poursuit à cause de son frère. Même si l'autre avait rétrogradé, qu'il avait perdu du terrain, malgré tout ça, Abraham l'aimait et il a continué à sa poursuite. Tout comme Jésus dans l'âge de l'église de l'Odyssée. Même s'il avait expulsé de leur église, il était à l'extérieur, il frappait, il cherchait entre si seulement il pouvait amener quelqu'un à lui ouvrir la porte. Voilà cet esprit d'Abraham. Et ouais, il va le chercher de son frère de rétrograde. Il est allé à sa recherche. Il est parti avec ses 300 serviteurs et les armes. Et il a rejoint Adam. Ça, c'est tout. Vous devez apprécier. Il a rejoint, il a divisé sa troupe et de nuit. Et il a poursuivi et a défait les armées. Il a vaincu les rois. Il les a tués. Il a ramené tout ce qui avait été emporté. Remarquez, quand il est revenu, quelle belle image nous voyons ici. C'est pour ça que j'aimerais présenter un peu ce qui s'est passé pour que nous ayons avant d'en venir à mon sujet. Si vous remarquez, Abraham quand il a ramené tout ce qui avait été perdu, son frère rebelle et ses enfants, et quand il les a ramenés, les rois sont sortis à sa rencontre. Et Melchizedek est venu, celui qui était le roi de Salem, roi de paix, le roi de justice, le roi de Jérusalem, son père, sa mère, sans commencement des jours, sans fin de vie. Melchizedek est allé au devant de lui à la, lorsqu'il devenait à l'effet de roi, et c'est à lui que le patriarche Abraham, Hébreu 7, rencontrant cet homme, a payé le dixième, la dîme. Quel grand homme ce devait être, d'après vous, c'était qui? Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait jamais eu de commencement. Qui qu'il soit, il est toujours vivant. Il n'a jamais eu de fin. Le roi de Salem, le roi de paix. Oh, qui était ce grand homme? Et remarquez quel beau type nous trouvons ici. Une fois la bataille terminée, après que le vrai croyant combattit l'ennemi, démolit ses lignes et essaie de rattraper son frère, que la vraie postérité d'Abraham a ramené ses frères rebelles. Alors Melchizedek est venu et il a servi le vin et le pain. La communion, il a servi la communion une fois la bataille terminée. Il lui a servi la communion après la bataille. Un très beau type du moment où la bataille sera terminée ici sur terre. Quand les victoires auront été remportées, Jésus a dit qu'il en mangerait à nouveau dans le royaume du Père. Après que le rebelle aura été ramené. Alors la première chose que nous ferons quand nous tomberons, une fois la bataille terminée, ce sera de nous mettre à table dans le royaume de Dieu. Et là, ceux qui auront combattu et se seront ainsi et auront vaincu, ils seront revêtus de la justice de Christ. Et là, de nouveau, ils prendront le pain et le vin dans le royaume du Père, de l'autre côté. Voilà une image vraiment très réelle. Abraham qui part chercher Lot et qui le ramène. Bon, ensuite nous voyons qu'au chapitre 15, ici, nous trouvons quelque chose de très frappant. Ceci, j'aime vraiment ça énormément, même après avoir vu qui était Abraham, maintenant Abraham et sa postérité après lui. Nous voyons ici qu'après qu'Abraham a fait toutes ces grandes choses, de croire en Dieu, de s'en tenir à la promesse, de se séparer, et tout au long, de suivre la voie et de l'observance des commandements du Seigneur, nous voyons que Dieu lui est apparu au lieu où il était l'autel. Et Abraham lui a posé la question. Il a dit, « Or, qui est mon héritier? Je n'en ai pas d'autre, pas d'autre que Eliezer de Damas. Et maintenant, tu m'as promis une postérité. Et je voudrais que tu fasses quelque chose. Je voudrais que tu me confirmes cette promesse. » Et Dieu a dit qu'il allait la confirmer à Abraham. Confirmer l'alliance qu'il avait faite entre lui et Abraham. Maintenant, il va lui donner un signe, comme quoi qu'il en sera bien ainsi. Même s'il est vieux là, qu'il est maintenant âgé, mais il va quand même le lui prouver par un signe qu'il va garder cette alliance. Oh, je suis si content que Dieu nous donne toujours des signes. Parce que nous devions savoir aujourd'hui qu'à l'heure où nous vivons maintenant, un signe doit se trouver sur la terre en ce moment. Nous devons nous attendre à voir ce signe. Dieu ne fait jamais rien sans avoir d'abord donné aux gens un signe, un avertissement. Un signe authentique est suivi d'une voix. Et cette voix est toujours une voix scripturaire. Maintenant, il va confirmer l'alliance à Abraham. Où c'était encore Abraham. Et il dit, prends une jeune jeunisse. Maintenant, vous souvenez-vous, ça, c'est un veau femelle. Et prends une chèvre de 3 ans, chacune doit avoir 3 ans. Remarquez, une jeunisse de 3 ans, une femelle, une chèvre de 3 ans, une femelle, et un bélier, un mâle. Chacun a 3 ans et âgé de 3 ans. Il y en a 3. 3 femelles, 2 femelles et 1 mâle. Vous voyez? Un sacrifice pur de 3 ans. un agneau, une génisse, une chèvre de 3 ans, et puis un bélier. Et si vous remarquez, tous ces éléments présentent ensemble un signe. Bon, je ne dois pas prêcher la doctrine sur cet extrait, mais je suis sûr que c'est assez clair pour que vous remarquiez. Remarquez, il a pris deux oiseaux, l'un un pigeon et l'autre une tourterelle, qui sont de la même famille, le pigeon et la tourterelle. Alors, il a coupé la chèvre, le mouton en deux, il a coupé le bélier et la chèvre et les autres, il les a partagés, les a coupés en deux et les a déposés là. Mais le colombe et le pigeon, il ne les a pas partagés. Il s'agissait bien, si tous ceux qui connaissent l'Écriture le savent, qu'il s'agit de la guérison divine. Voyez? Elle fait partie des deux alliances. Alors nous voyons, il les a adoptés, la guérison c'est toujours par la foi, dans les 100 versets, toujours. Si l'ancienne alliance incluait la guérison divine, a comme les plus fortes raisons, la nouvelle alliance incluera-t-elle. Voyez? Si l'ancienne alliance a produit cela, qu'en est-il de nouveau, de la nouvelle? Qui parle mieux des choses supérieures, des choses plus grandes? Meilleur. Maintenant, nous voyons ici qu'Abraham, quand il a fait ça, alors, remarquez ce qui s'est passé. Maintenant, voici un point très frappant. Je ne veux pas que vous le manquiez. La confirmation de l'alliance, autrement dit, c'est une promesse que je suis fidèle à ce que je fais ou à ce que je dis que je ferai. Dieu qui confirme cela à Abraham. Et il a pris ses sacrifices, il les a tués et il les a déposés là ensemble, les plaçant l'un vis-à-vis de l'autre. Et il a veillé à chasser les oiseaux pour que les oiseaux ne s'abattent pas sur la viande fraîche jusqu'à ce que le soleil se couche le soir. Et au clin du soleil et au coucher du soleil, c'est là qu'il a montré à Abraham ce qu'il allait faire dans le futur, ce qui allait arriver. Remarquez, il a dit à Abraham, la première chose qu'il a vue, c'est qu'une grande frayeur, une grande obscurité, là, ça y est. D'abord, un profond sommeil est tombé sur lui. Or, ce sommeil représentait la mort, le lot de tous les êtres humains. Tout homme doit mourir. La mort, le lot de tous les êtres humains. Ce sommeil-là envahi. Et avant cela est venu une grande frayeur des ténèbres. Ensuite, est venue une fournaise ardente. Ensuite, une petite lumière qui brûlait et passait entre l'alliance et passait par le sacrifice. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout être humain doit mourir. Et après ça, vraiment, il mérite d'aller en enfer, c'est vrai, dans les ténèbres du dehors. C'est pareil. Mais la lumière est entrée, elle est passée entre, elle a partagé ses sacrifices. Vous comprenez cette alliance? Comme nous, les Américains, comment contractons-nous une alliance? Eh bien, la première chose que nous faisons, nous disons que nous allons contacter une affaire quelque part. Et d'habitude, nous allons prendre un repas quelque part et nous nous asseyons et nous discutons pendant un moment. Après quoi, nous nous serrons la main, nous disons top là, c'est notre alliance, c'est notre promesse. Mais au Japon, souvenez-vous comment ils contractent une alliance? Eux, ils vont manger quelque chose, ensuite ils prennent un petit plat de sel, ils se jettent du sel l'un sur l'autre. C'est la confirmation de l'alliance, Jésus. Oh, nous, on se serre la main, on dit, marché conclu, mon vieux, je le crois, je maintiendrai ceci. Chez les Japonais, au Japon, ils se jettent du sel l'un de l'autre, marché conclu. Il n'y a aucune contestation. Ils ont contacté l'alliance, ils l'ont confirmé en se jettant du sel. Mais autrefois, est-ce que je peux prendre... Autrefois, voilà comment ils contactaient une alliance. On rédigeait un accord. Et ensuite, cet accord, on le mettait par écrit. Et ensuite, on tuait un animal. Un sacrifice. On le partageait, on le déposait comme ce qui se faisait d'éternel. Ensuite, on s'est placé au milieu de cette alliance. Vous et moi. Et on faisait un vœu à Dieu. Si nous ne gardons pas cette alliance, que nous soyons comme ce sacrifice mort qui est mort à notre place. Que le sang de ce sacrifice nous soit redemandé. Que nous mourions de la même mort si nous ne gardons pas l'alliance. Alors tout ça, c'est bien rédigé ou mis par un... Ensuite, on déchire celui-ci en deux. Et là, vous prenez une moitié, moi je prends une moitié. Et maintenant, vous voyez, on ne peut pas du tout en faire un double, à plus forte raison quand c'est écrit sur un papier. Alors, on ne pourrait pas du tout en faire un double. Ceci doit pouvoir se raccorder parfaitement, c'est la boucle. Alors, nous nous retrouvons, moi j'en ai une partie, vous en avez l'autre. Alors, quand nous nous retrouvons et que cette alliance doit se faire, qu'il faut s'acquitter de nos vœux, Alors mon morceau de papier doit pouvoir se raccorder parfaitement à votre morceau. Et donc c'est bien vous qui avez part avec moi à cette alliance. C'est ce que Dieu faisait là. Il était en train de montrer que Dieu lui-même allait descendre pour être fait. Qu'il allait de vous avoir part à l'alliance. Et Dieu a conduit Christ, l'Esprit Dieu, Jéhovah, a conduit Christ jusqu'à la croix. Et là, j'ai déchiré en deux. Il a arraché son âme hors de lui et l'a placé dans les lieux très hauts et il a pris le corps et au matin de la résurrection, il a fait monter le corps et l'esprit qui était sur et il l'a fait revenir sur l'église de sorte que cette même confirmation en ce dernier jour, Jésus-Christ le même hier aujourd'hui éternellement. Là, cette même alliance sera ainsi forcément dans les gens. Comment allez-vous arriver à cela par l'inscription? Comment allez-vous arriver à cela autrement que par une confirmation de Jésus-Christ, vivant, ressuscité, qui a été ressuscité des morts et qui est assis dans la majesté divine dans le lieu très haut, alors que le même esprit qui était sur lui et sur la postérité royale d'Abraham, dans les derniers jours, confirmant et prouvant qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Amen. Il y a de quoi se sentir religieux, n'est-ce pas? Voilà, c'est exactement ça l'alliance. J'ai créé mon alliance sur leur cœur. Jésus a dit, vous ferez vous aussi les œuvres, les choses que je fais. Quand nous en viendrons à Sodome ici dans quelques minutes, observez ce qu'il a et ce qui s'est passé. En quoi au juste consiste les promesses pour le dernier jour et ce qu'il a fait. Oh, il est confirmé, il montrait, il a déchiré le corps de Jésus et a pris l'esprit, a fait monter ses corps à la droite du trône de Dieu. Et il a fait descendre sur nous l'autre partie, la partie qu'il avait arrachée de lui, l'Esprit, qui est appelé le Saint-Esprit. Et la vie même qui était en Christ est en vous, ce qui montre qu'il est votre Rédempteur. Il vous a adopté pour Dieu et maintenant nous sommes des fils et des filles de Dieu qui ont l'Esprit de Christ. Amen. Vous verrez, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez de plus, car je m'en vais au Père. Amen. L'Esprit qui est en lui, qui était en lui, est sur vous. La vie éternelle. Il est le donateur de la vie éternelle. Il est un rédempteur qui doit ramener ce qui était tombé par la chute dans la race humaine, ramener cela à Dieu. Et l'Esprit qui était en Christ est en vous. Et si l'esprit d'un Dylan était en moi, j'aurais des revolvers. Et si l'esprit d'un artiste était en moi, je peindrais des tableaux. Et si l'esprit de Christ est en vous, vous ferez les œuvres de Christ. Amen. C'est vrai. La vie qui était en lui est en vous. Faites passer la vie d'une chose dans une autre. Si vous vouliez prendre la vie d'une sautruie et l'introduire dans une pastèque, cette plante porterait de sautruie. Parfaitement. Prenez la vie qui se trouve dans un péché et mettez-la dans un poirier. Celui-ci portera le péché. Parce que la vie qui est dans l'arbre te montrera ce qu'elle est. Et c'est la même chose pour la postérité roi de Rempart. Isaac est venu. Il y a l'écrasement d'Ephraïm, Manassé, la bénédiction de la main droite est passée à la main gauche. Au celle de la main gauche qui est revenue à celle qui est à gauche du plus jeune autre. C'est ce qui a renversé toute la situation pour la postérité naturelle d'Isaac, qui était à Christ, l'église naturelle d'aujourd'hui qui est le rejet, mais la postérité royale spirituelle de Dieu qui croit, la postérité royale d'Abraham, qui croit chaque parole de Dieu. Et se trouve la confirmation de Jésus-Christ vivant, ressuscité. Amen, amen. Oh là là. Voyez? C'est la même chose quand toute l'église doit avoir un lien de parenté. Lorsque le type de cela avait été montré par dans la postérité naturelle, regardez, Isaac et Rebecca étaient des cousins germains. Parents par le sang, de même père. Ouais. Leur père était frère et ce qui était deux, le cousin conjoint, l'époux. Quand Adam et Ève, tout était Adam au départ. Dieu a pris dans le côté d'Adam une côte et a formé une femme et il a pris l'esprit féminin qui était Adam et l'a mis dans la femme. Donc quand une femme a un comportement, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et quand un homme veut être un grand efféminé, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dieu a fait un homme et il l'a habillé comme un homme et la femme comme une femme et veut qu'il reste toujours comme ça. Amen. Quand vous le voyez faire autre chose que ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça s'étendit à l'ensemble. Ce n'est plus qu'une bande de pervertis. C'est tout à fait vrai. La race entière, la génération entière, c'est tout n'est qu'une plaie vive, comme dit la Bible. Rien n'est bon en bon état nulle part, pratiquement. Vous savez que c'est la vérité. On n'en trouve plus. Vous sautez dans l'œil, on a du mal à trouver un homme, un vrai. Des efféminés comme je n'en ai jamais vu. Et les femmes, elles portent des pantalons. Elles se coupent les cheveux. Elles mettent du rouge à lèvres. Elles fument la cigarette. Mais pourquoi est-ce que vous voulez en être un homme? Vous êtes censé être une femme, une dame. Je viens écrire une table pour les dames. Je dis, vous n'avez jamais vu une seule cliente. Non, monsieur, une dame n'ira pas là-bas. Une femme peut-être, mais pas une dame. Elle n'entrera pas dans un endroit. Dieu a séparé, coupé. Le corps épouse de Christ doit correspondre de nouveau à qui il était. Or, Ève, qu'est-ce qu'elle était? Elle et Adam, c'était la même chose. Ils étaient appelés Adam, ils étaient esprits. Lorsqu'il a formé l'homme, la première chose qu'il a fait, Dieu était esprit, il a fait Dieu esprit, il les créa à l'image de Dieu, il les a créés mâle et femelle. Et à ce moment-là, il n'y avait toujours pas d'homme pour cultiver le sol. Ensuite, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et il a mis ce double esprit en lui, c'était la première. Ensuite, quand il a séparé Ève d'Adam, Ève est tombée parce qu'il n'a pas cru. Voilà en quoi l'Église a échoué aujourd'hui. Elle ne croit pas la parole. Mais ici, dans le cas de la postérité royale d'Abraham, appelée prédestinée à la vie éternelle, la postérité royale d'Abraham, et il croit cette parole, quoi qu'il advienne, peu importe combien on peut se moquer, qui dit ceci des autres, et ils sont destinés à la vie éternelle. Elles retournent tout droit à cela. Elles et son amour et Christ sont un. La vie, l'esprit qui est en Christ et dans l'Église, voilà, c'est ça leur alliance éternelle, vous voyez? Dieu a pris l'esprit de Christ et l'a déclaré au sacrifice, au calvaire, et il a pris cet esprit, a fait monter le corps et l'a placé à la droite du trône de Dieu et de majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, tout ce qui... Alors l'esprit qui était sur lui est revenu, le même esprit, pas un autre esprit. Ce même esprit est venu sur lui afin de confirmer l'alliance à la postérité royale. Dans les derniers jours, selon l'Écriture, nous sommes censés voir cela. Et avant que l'épouse de Christ puisse être enlevée, il faut qu'il y ait un ministère qui concorde vraiment en tout point avec cela. Amen. Je suis si heureux de déclarer ce soir que je sais que c'est la vérité. Amen. Concordant tout point, confirmant l'alliance. Il a confirmé là, il lui a montré ce qu'il allait faire, confirmant l'alliance. Et tout spécialiste de la Bible sait que c'est qu'il a confirmé l'alliance à l'Abraham. Qu'est-ce qu'il faisait? Il montait par une préfiguration ce qu'il allait faire, par ses sacrifices. Et maintenant, il s'est fait tard, alors je n'aurai pas de temps à partager tout ça. Je vais peut-être devoir faire cela demain soir. Mais remarquez, montrez ce qu'il fait. Et voyez, il a confirmé, montrant que dans les derniers jours, or, toute personne qui a déjà lu l'histoire ancienne sait que c'est. Il la mettait par écrit, ensuite il déchirait cela et donnait l'un à l'autre, d'un bout à l'autre, il s'est retrouvé. C'est ce qu'Abraham a fait là-bas à Guéa, et tous, aux endroits où il est allé. Et ils ont offert et offert les sacrifices et conclu un accord, déchiré cela. Et Dieu a fait la même chose, montrant là que ce qu'il allait faire. Hein. La question c'est que, où est cette postérité que tu n'as pas promis? Où est comment? Les gens se payent ma tête, ils disent, Abraham, père des nations, il y a 15 ans de ça. Maintenant, tu as 85 ans, 90 ans. Où est tous ces enfants? Combien d'enfants? Ouais, il s'est moqué. Il a tenu ferme, il s'est moqué, mais il disait, père des nations, maintenant, voyons un peu, tu as combien d'enfants maintenant? Ouais, il cherchait à se moquer parce qu'il croyait qu'il était... Il savait, il est plus que capable. Il peut se pourvoir de son propre sacrifice. Il est Jéhovah Jireh. Il peut pouvoir effrayer une voix à ce qu'il a promis. Et il lui a confirmé l'alliance en lui montrant comment il allait accomplir cela. Qu'il allait prendre Christ, déchirer la vie qui était en lui et la faire descendre dans les derniers jours. Bon, cette semaine, nous compléterons cela dans les Écritures. Que cette alliance doit être confirmée avec la postérité royale d'Abraham. Ces gens qui sont pris au milieu des nations n'ont pas de... Mais un peuple choisi du milieu des nations à cause de mon nom. Qu'il choisit enfin qu'il porte son nom. L'Église qui porte son nom sera de nouveau à lui parce que c'est ce qu'elle est. C'est sa vie. Écoutez, quand au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, au jour de la Pentecôte, la vie a été donnée à l'Église. Et cette Église est allée à l'avant de, et on a écrit un livre des actes, et ainsi de suite. Et ce qu'il avait compris parce que c'était... Et maintenant, Jésus a dit dans... Jésus a dit, je suis... Je suis, laissez vous aller. Eh bien, alors si cette branche, la première, qui est sortie de cet arbre, a produit un livre des actes, si jamais celui-ci fait sortir une autre branche, ce sera la même vie. Il y a quelques mois, je me trouvais avec mon bon ami Jean Chérit à Phoenix. J'habite à Tucson. Mais vous voyez, j'étais à Phoenix, frère Jean Chérit, un frère chrétien très gentil. Il a été très, très pauvre, le Seigneur l'a béni. Et la première fois que je suis allé à Phoenix, il n'avait pas d'enfants, il voulait avoir des enfants. Ils étaient pauvres, ils travaillaient sur la rue, cassaient du béton pour environ 25 cents le jour. Et il est venu là, il a écrit chaque parole du message, il a dit, vous Dieu, vous priez pour moi. Maintenant, il a 5 enfants. Maintenant, plus, il donne environ 3-4 millions de dollars par année pour la cause de Christ. C'est vrai, et j'étais avec lui là-bas, et il n'y avait pas longtemps, j'ai visité sa plantation de coton. Il a acheté tout autre contrée. Il avait là 1500 Mexicains qui s'occupaient. Il m'avait fait visiter sa grande plantation d'agri et j'ai vu l'arbre la plus bizarre que j'ai jamais vu toute ma vie. C'était une espèce d'arbre qui portait toutes sortes de fruits. Et je regardais, il portait des oranges, il portait des citrons, il portait des pamplemousses, il portait des mandarins, il portait des mandarines, tangelo. Je pense qu'il y avait là environ 9 espèces différentes. C'est ce qu'ils sont. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est juste une petite expérience. Il a dit, oh, je vois. Et j'ai dit, c'est quelle sorte porte l'arbre, etc. Il a dit, c'est un oranger. C'est de l'orange d'avant. Et j'ai dit, oui, j'ai dit, tous les autres, qu'est-ce qu'ils font là? Il a dit, ils ont été greffés. J'ai dit, oh, je vois. Je comprends. Et j'ai dit, maintenant, la prochaine, il y aura plus que des oranges tous les ans. Il a dit, non. Le citron va produire le citron. Il a dit, et les pamplemousses vont produire les pamplemousses. Et la pamplemousse va produire les chandelines. J'ai dit, sur un oranger? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, je ne vois pas comment ça s'est fait. Il a dit, ce sont tous des agrumes. J'ai dit, eh bien, gloire au Seigneur, je vois quelque chose. Regardez, oh frère, quand le Saint-Esprit est monté dans ses cèpes et qu'il a produit de son cèpe la première branche, alors ils ont produit... Question, si jamais cet arbre alors produit une autre branche, elle produira la même chose, ce sera Jésus-Christ. Maintenant, on a les méthodistes, les prébistériens, les baptistes, les luthériens et les restes qui ont été graffés là-dessus, qui portent des fruits dimensionnels. Mais si jamais il fait sortir de notre branche, et celle-là sera la véritable parole de Dieu remplie de Christ, centrée sur Christ. Souvenez-vous, vous vous souvenez du message d'Abraham. Beaucoup d'entre vous, là, le vigneron est venu et le fruit qui était produit. Alors, il a retranché sa retranché, il a continué à tailler. Mais Joël a dit ce que le gars a laissé, le gars a divorcé, le gars a laissé quelque chose avec d'autres. Nous constatons que ces insectes, ce sont les mêmes insectes, seulement différents stades. C'est que les luthériens ont laissé, les méthodistes ont laissé, les baptistes l'ont dévoré. C'est ce que les baptistes ont laissé. Mais Dieu a dit, je restituerai de l'éternel toutes les années. Je ferai revenir une autre église. Dans les derniers jours, je restituerai cette puissance originelle de nouveau. Et vers le soir, la lumière paraîtra. Et du cœur du même cet arbre, quel que soit le nombre de branches qui ont été demandées, sortira la postérité royale d'Abraham. Alléluia. Dieu l'a promis, Dieu le fera. Il a dit qu'il le ferait. Je restituerai toutes les années que les dominations ont dévoré. Je restituerai toutes les années. Je l'ai demandé tout ça, mais malgré tout du cœur de cela sortira un sept. Il sera un arbre planté près des courants d'eau. Un homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Pas un credo, une animation, mais qui médite pas au jour et à nuit. Il sera comme un arbre planté pour sur les coins. Il donnera son fruit à sa saison. Dieu a promis cela. Dieu arrache, qui tire, qui tranche, qui se sépare, qui se partage. Le jour de la Pentecôte, il a fait la même chose quand le Saint-Esprit est descendu. C'est le colonne de feu qui est descendu, qui suivait Israël. Nous avons tout ce que c'était le logo, c'était Christ. C'est le jour de la Pentecôte. Quand elle est descendue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est séparée, les louanges, les langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Dieu s'est partagé parmi les gens. Oh frère, vous pouvez être entier en ayant le même esprit qui est en Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et de plus grand ou davantage, la bonne traduction, car je m'en vais au Père. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je, pour nos personnels, je serai avec vous et même en vous, au temps de la fin de la consommation. Il a promis de le faire, la postérité d'Abraham. Il est ici maintenant. Nous voici alors qu'il y a quelques jours, nous avons célébré sa résurrection. Dès qu'il a ressuscité, nous en témoignons, nous les chantons. Il pourrait paraître à faire quelque chose qu'il avait fait, exactement qu'il avait fait avant sa résurrection. Et nous appelons cela le désir des bonnes aventures des morts. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? C'est ainsi que se doit s'accomplir l'écriture qui déclare qu'il est dans l'âge de l'Odyssée, qui est en Christ et qui est en mise en place. Et cherchant, il frappera la porte, cherchant d'obtenir quelque part les collaborations. Mais de là sortira une branche aussi sur qu'est-ce deux ou deux font quatre. Je dis à frère Jarit, dans ce cas, il y aura tout cela, mais ce sera une branche de l'arbre original. Mais quand il fera sortir lui-même une branche, ce sera une branche d'oranger, comme cela. De même, quand la vraie postérité vivante d'Abraham s'élevera au même esprit qui était en Jésus-Christ, chaque parole sera ponctuée d'un amen. Et il accroît, non pas ceci est inspiré, ce qui n'est pas inspiré. Il accroît tout parce que c'est la parole de Dieu. Le croyez-vous ce soir de tout votre cœur? Je crois cela. Maintenant, j'ai déjà pris beaucoup de temps ici à prêcher. Inclinez la tête maintenant. Je finirai demain soir. J'ai promis de ne pas vous tenir trop longtemps. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, est ainsi confirmé. Pour Abraham, alors que c'était réglé, lorsque par la foi il a vu qu'il est allé là-bas, sans douter, par incrédulité, il ne douta point. Maintenant, qu'en est-il de sa postérité royale? Nous qui prétendons, nous le croyons, qui prétendons embrasser la même coupe que celle qu'il a, ayant en nous son esprit en lui, et le voyant confirmer la promesse qu'il avait faite, qu'il serait là avec nous. Cette promesse d'en produire l'accomplissement de tous les âges, ça ne s'est jamais fait. Nous n'avons jamais eu cela. Fouiller dans l'histoire, ce n'est jamais arrivé. Et cela, c'est censé être envoyé dans les dunes. Pas à Babylone, pas à Sodome. Eux, ils ont eu un messager là-bas. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le messager pour l'Église et dit ce soir, Dieu habite dans, montrant qu'il est celui qui discerne la parole, qui discerne les pensées, les intentions du cœur. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Jéhovah Jiré. Il a déjà pourvu un autre sacrifice. Il confirme son alliance. Il garde son alliance dans les derniers jours avec les gens. Mes amis, nous pourrions parler toute la nuit ici. Ces choses ont été suffisamment, des choses ont été dites. Il y a ici des gens qui sont malades. Vous voyez, nous avons besoin de guérison. Pourquoi ne pas croire à cela? Si je pouvais vous guérir, c'est vrai. Soyez en prière. Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Je ne peux pas vous guérir. Vous verrez que je consacre la réunion première soirée ou les deux premières ici à la prière pour les malades. Mais ce n'est pas la seule vie. Il y a ici des semences qui ont été destinées à la vie, le Saint-Esprit. Ils verront ce qu'il en est et ils reconnaîtront ce qu'il en est. Combien ici voudraient lever les mains devant Dieu et dire, je le crois de tout mon cœur, que Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Qu'il est ressuscité des morts, qu'il est vivant parmi nous ce soir, en train de montrer qu'il est parmi nous. Et je crois que ceci vient de Dieu. Voudriez-vous lever la main? Je le crois. Maintenant, Père Céleste, ils sont entre tes mains. Ils professent qu'ils sont la postérité d'Abraham. Ils désirent recevoir, les bénédictions de Dieu. Et maintenant, je leur ai déclaré de cette manière toute simple. J'ai abordé mon sujet, je n'ai pas réussi à finir. Mais Père, ils voient ici dans la confirmation donnée à Abraham que tu lui as confirmé la promesse. Tu lui en as donné la confirmation. Maintenant, si l'Esprit de Christ n'est pas en nous, nous n'appartenons pas à Christ. Et la nature de Christ ne peut pas changer. Et il nous a bien déclaré ces choses. Il les a promis, selon la Bible, dans de nombreux passages. Et même l'Ancien Testament l'a promis dans Malachie 4, où il est dit comment se serait dans ces derniers jours. Ramènerait le cœur des enfants à la foi de Père. À celle des pères de la doctrine originelle de la Bible, la parole originelle, c'est ce qu'il a promis. Il y aura un signe, ce signe confirmerait, ce serait confirmé par la voix qui le suivrait, que tu es ici et nous croyons en toi. Maintenant, Père, que Satan s'en aille. Nous ne croyons pas avoir la puissance, Seigneur. Et nous ne prétendons pas avoir la puissance, nous prétendons avoir l'autorité. Nous savons bien que le petit policier dans la rue avec son petit qui appuie sur la tête, ce gros qui route en 4 à l'heure avec un moteur de 3, cet homme n'a pas la puissance d'arrêter une seule rue. Mais il n'a qu'à montrer son insigne à élever le frein grince et le pneu crisse. C'est l'autorité. Il a toute la ville derrière lui. Il a l'autorité par la puissance. Il ne pèse peut-être même pas 100 livres, mais il a autorité. C'est la même chose ce soir, Seigneur. Nous venons à Satan, non pas avec la puissance, mais l'autorité présentant le sang et la confirmation. Il n'a pas le droit de tenir ses malades, de la regarder, de voir ici, en train de débattre. Oh Dieu, si seulement je pouvais arriver à leur faire parvenir les messages, réveiller le Seigneur. Que maintenant, que ce soit un moment où tu feras voir tous les mêmes. Tu la tiens exactement comme tu l'as promis. Confirme ta parole. Lorsque le Fils de l'homme se révélera, que ces choses arrivent. Accorde le Seigneur, fais-le voir que c'est toi, c'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Maintenant, croyez, mes amis. Vous êtes une auditoire si charmante. J'ai donc dépassé le temps prévu. Je ne voulais pas faire ça. Je leur avais dit que. Mais je n'y ai pas arrivé parce que je finirai mon sujet demain soir, peut-être. Maintenant, vous, nous voici. Vous êtes des personnes, tous, nous sommes simplement des êtres humains. Nous désirons vivre. Chacun désire vivre tout le temps qui lui a été assigné. Je crois que c'est ce que Dieu désire que nous fassions. Or, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bon Mangila. Vous savez, une fois, il a été dit, pourquoi n'y a-t-il point de bon Mangila? N'y a-t-il point de prophète là-bas? Dit Isaïe, je veux dire, allez lui demander, est-ce qu'il n'y a pas un point de prophète en Israël pour aller con là-bas au Dieu de Belzébuth? Pour quelle raison, pourquoi aller là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas de bon Mangila, qu'il n'y a point de médecin? Non, messieurs, nous avons la bombe. Le Saint-Esprit est ici. Oui, messieurs, la promesse nous appartient. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est un jour où les gens ont l'Esprit tellement dispensé. Ils me font pitié. Ils ne savent pas quoi faire. L'un dit ceci, l'un dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vrai, a dit le Seigneur Dieu. C'est exact. Il ne peut pas changer sa nature. Maintenant, je crois qu'hier soir, nous avons commencé par la carte numéro 1. Nous ne savons jusqu'à. Alors changeons un peu de façon de penser. Ne prenons pas du tout les cartes. Oui, n'avez point, vous savez, le cadre de prière ne sert qu'à vous faire monter ici. Mais je sens sa présence. Alors maintenant, combien ont vu la photo de l'ange? Je voulais cette vue, je vous raconter aussi. Il est à moins de 60 cm d'ici. Si quelqu'un qui n'a pas de cartes, mais je suis malade. Qu'est-ce que l'ange a fait là-bas? Il a tourné le dos, il avait le dos tourné à Abraham. Cela voulait dire. Et le passage, il a dit la même chose arriverait à l'avenir. Nous voyons qu'il avait le dos tourné à la tante. Et Sarah rit de ce qu'il avait dit, du fait qu'il lui avait annoncé cela. Elle ne comprenait pas que lui était un simple, mais qui mangeait la viande et qui buvait le lait de la viande, qui mangeait le son. Mais il était Dieu. La Bible dit que c'était, que ça l'était. Abraham dit que, qu'il était, c'est vrai, Elohim, Dieu. Il s'est volatilisé là même, devant Abraham. Et Dieu l'a appelé Seigneur, Dieu Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Au commencement, c'est le même coup. Au commencement, Dieu allait voir dans l'hébreu, Elohim. Regardez bien, quand Elohim a dit, la même chose. Ce qui montrait
Abraham seed to confirm the covenant and do the same thing he did.
La même chose qu'il avait fait, il va confirmer l'alliance. Il est toujours un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur. En effet, combien savent que la Bible dit que la parole de Dieu discerne les pensées qui sont dans le cœur. Maintenant, si Dieu prend au moins 3 personnes ici ce soir, oh, ceci c'est un défi. Si quelqu'un pense que ce n'est pas vrai, qu'il vienne donc. Maintenant, remarquez. En 3, c'est la confirmation qui me sont tellement bonnes. Si le Saint-Esprit, si seulement vous croyez, c'est tout ce que je vous demande de croire, de faire, c'est de croire ce que cette Bible est là, que cette Bible savait, que nous vivons au dernier jour, que ceci est la promesse pour le dernier jour. Souvenez-vous, ni Abraham, ni personne d'autre n'a vu un seul autre signe avant que le Fils promis arrive. Jusque-là, Abraham avait vu toutes sortes de signes, toutes sortes de choses, mais cela a été le dernier signe. Il ne rompra jamais cela, la continuité de Dieu. La postérité d'Abraham, c'est le dernier signe qui est sorti. Oui, celui-là a été le dernier Dieu. Tout de suite, il a vu que c'est ça. Et Jésus s'est reporté à cela, disant que c'est ce qui est arrivé et nous voilà demain au jour. Les amis, là, il est né dans une crèche, mais pratiquement personne ne voulait de lui. Mais il n'y avait que la semence qui croit et ceux qui ont été destinés à vie, c'est tout. C'est vrai. Il n'y a pas. Maintenant, vous voyez, voilà, je pourrais prier, vous imposer les mains. Je vais parler de cela surtout dimanche après-midi. Mais je veux que vous voyez que vous pouvez poser vos mains sur lui. Il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Croyez-vous ça? Vous le croyez? Et maintenant, s'il veut bien le faire, je connais quelqu'un, je viens de voir. Et quelqu'un d'autre qui est là, ils sont. Et l'autre. Vous n'avez qu'à lui dire. À la nuit, le petit bébé. Et cet homme, l'un des anciens de Fouati qui avait été projeté les jeunes, c'est d'où jusqu'à tout fossé, et son petit cerveau avait été consommé, commotionné. Le Seigneur l'avait guéri. Il est parfaitement normal. Maintenant, ne dites pas que c'est moi qui ai accompli cela. Je n'ai rien à y avoir cela. Leur foi en Dieu, voilà ce qui a accompli cela. Dieu a dit dans Marc, tout ce que vous dites à cette montagne, si vous ne dites pas de votre cœur, mais croyez que vous avez dit, ce que vous avez dit, cela arrivera. Et s'il peut prouver qu'il est vivant, celui qui a fait la promesse, peut prouver qu'il est vivant et absolument rien d'autre ne peut le faire. Réveillez-vous, secouez-vous très fort et absolument rien d'autre que ne peut faire. Maintenant, vous pouvez juger. Ils ont jugé qu'il était du malin alors qu'ils peuvent bien juger son nom. Ils disaient qu'il était un démon et faisant des choses. Ils ont réussi la récompense de cela. Bien évidemment, ils ont réussi la récompense. Mais si vous pouvez seulement prendre conscience que celui-là même que vous servez, que vous vous êtes séparé du monde, enfin de choses, celui-là même que vous aimez, celui-là même qui sera là au jugement, vous aurez au jugement avec lui. Vous êtes, que ça, et si sa présence peut venir ici maintenant, son corps physique ne peut pas le faire. Quand celui-là viendra, le temps sera terminé. Mais son esprit, l'Église, elle est passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, le temps de l'enlèvement pour préparer l'épouse. C'est très exactement comme cela avait été promis, exactement comme conforme à la disposition de l'Église. Nous avons vu toutes choses qui se sont congelées l'une après l'autre. Le pentecôtisme est la dernière organisation. Ça, c'est selon l'Écriture. La dernière organisation, c'est rejetée. Aucune organisation n'est acceptée devant Dieu. Ceux qui sont acceptés Dieu, ce sont les individus. Maintenant, bon, je ne suis pas votre frère maintenant. J'ai été envoyé, c'est Dieu qui m'a dit de venir faire ceci. Donc, je crois ça. Si ce n'était pas écrit dans la parole pour cet âge, je m'éloignerais de ça. Tout ce qui n'est pas dans cette parole, je n'y crois pas. Je ne l'accepterai pas. Je ne dis pas que je n'y croirai pas, mais je ne l'accepterai pas. Par contre, quand c'est dans cette parole, c'est une promesse pour cet âge, ça, je le comprends. Et vous, que le Seigneur nous aide maintenant. Et vous, simplement, élevez-vous maintenant par la foi. Croyez que nous sommes dans sa présence maintenant, qu'il s'agit de ce même Jésus qui a fait cette promesse. Et dans la Bible, ici, l'inspiré, Paul, qui avait reçu une si grande exponence de révélation qu'il avait devenu un être, et qu'il avait les afflictions dans la chair pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Et c'est lui qui a écrit la Bible, tellement il a été inspiré, il a écrit les livres. Et donc, la parole est venue à lui et il a écrit, il a été accepté dans les Écritures sacrées. Celui qui croit, qui a enseigné ces choses. Mais maintenant, souvenez-vous que Christ est ressuscité des morts et qu'il est parmi nous. Maintenant, retenez bien cela. Christ est ressuscité des morts et il est parmi nous. Bon, nous avons vu toutes sortes de grands mouvements, des cris de joie, des louanges. Tout ça, c'est bien, mais nous avons parlé en langue et prophétisé. Nous avons vu tout ça, c'est très bien. Ces choses accompagnent. Mais souvenez-vous, la dernière chose, c'est sa présence divine. La parole elle-même, il est la parole, la tête, la parole. Elle vient vers le corps. Voyez? Alors, cette parole, dans Hébreux, au chapitre 14, il est dit que la parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Maintenant, prenez ce passage d'Écriture, suivez cela. Continuez jusqu'à Jésus-Christ. Voyez si ce n'est pas la même. Et la même chose par laquelle il s'est fait comme Messie. Ce n'est pas un homme ici qui est ici, c'est le Saint-Esprit qui est le Messie. Christ et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Alors voilà, il est ici maintenant à l'œuvre dans la chair, en train de préparer le corps pour la grâce de l'enlèvement. Croyez-le, mes amis. Seigneur Dieu, je t'en prie, fais que cela se produise ce soir. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je dis cela pour que vous compreniez. Ouais, si vous doutez, il n'est pas bon que vous attendiez si longtemps. J'ai déjà vu ça arriver parfois aux autres. Ça se passe d'une personne à l'autre. Ça passe d'une personne à l'autre comme c'était dans le cas dans la Bible. Combien d'entre vous ici sont en prière? Vous savez que je vous suis inconnu et que je ne sais rien à votre propos. Levez la main pour que vous... que vous êtes en prière, que vous savez que je ne sais rien à votre sujet. Vous, l'homme assis là-bas qui porte une cravate noire, qui me regarde juste ici. Maintenant, regardez, vous voyez cette lumière, vous voyez, n'est-ce pas, une lumière ambre d'un verre tirant sur le doré. Croyez-vous que je suis son serviteur, monsieur? Si Dieu peut me révéler quel est votre problème, croyez-vous, vous me croiriez de tout votre cœur? Vous croyez qu'il s'agit de Dieu? Le ferez-vous? Croiriez-vous que votre guérison se produira? Avez-vous une carte de prière? Non. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez un trouble. Si c'était exact, levez la main. C'est assez lourd. Ça y est, ce n'est plus maintenant. Si vous croyez, vous n'avez plus ça. Je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu. Maintenant, il y a ici un homme ici, il est en prière. Il peut aussi gérer un problème qu'il a. Regardez-moi, monsieur. Avez-vous une carte de prière? Vous n'avez pas. Croyez-vous que je suis son serviteur de Dieu? Croyez-vous que je vous ai dit la vérité? Croyez-vous qu'il s'agit de la présence de Jésus-Christ? Croyez-vous que votre doigt ira bien à partir de maintenant? Vous le croyez? Levez la main si vous le croyez. Oui. Maintenant, demandez-le à cet homme. Je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas moi qui l'a touché. Il est à 20 pieds. Qu'est-ce qu'il a touché? C'est là, compliqué. Il a touché le souverain sacrificateur. Il était assis là, il priait pour ça. Oui. Il a touché le souverain sacrificateur qui peut compartir à nos faiblesses. Oui. Maintenant, qu'en pensez-vous, jeune homme, assis là-bas? Un jeune homme qui me regarde avec un air si sérieux. Croyez-vous que Dieu va guérir ce problème des reins que vous avez? Levez la main si vous le croyez. Voulez-vous aussi renoncer à cette attitude que vous avez? Vous débarrassez de ces cigarettes, faites-y lever. Alors, abandonnez, allez, n'y pensez plus. Jésus-Christ vous a guéri, si tu peux croire. Juste en face de vous, il y a une dame assise là qui porte des lunettes et souffre d'une maladie nerveuse. Croyez-vous que Dieu va vous guérir, madame? Levez la main si vous le croyez. Très bien. Voulez-vous me rendre? Il y a une petite dame juste à côté de vous qui souffre d'une... Levez la main, frère. Alléluia, dites, c'est à côté de vous. Voilà juste à côté de son. Il y a une femme qui est assise à côté de celle-là. Elle souffre des jambes. Elle a un problème de jambes. Croyez-vous que Dieu va guérir vos jambes? Croyez-vous qu'il est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement? Vous croyez-vous qui est assise là, juste derrière cet homme assis là, à l'avant là, qui est la dame qui... Croyez-vous que Dieu vous avez deux choses graves? L'une d'elles, c'est un cancer, l'autre, c'est l'arthrite. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Oui, levez la main, dites. Je crois de très bien. Croyez-vous qu'il a confirmé? Il y a une dame assise ici qui me regarde juste derrière cet homme. Elle porte une espèce de robe dans les teintes de rouge. Rouge. Là-haut, ici, un tricot peut-être. Elle est trop loin, c'est sombre là-bas. Après cela, voyez-vous? Voyez-vous, on a tellement faibli qu'elle commence à perdre un peu de... La voilà juste au-dessus. Et vous voyez, c'est bien. Cette dame est en train de prier pour quelque chose. Si Jésus-Christ me révèle, c'est pourquoi vous priez. Croyez-vous que cela? Je vous suis inconnu, vous m'êtes inconnu. Vous êtes entré en contact avec lui. Parce que l'indication qu'il me donne est juste au-dessus de vous. Vous voyez? Le signe, je le sais. Vous souffrez énormément de nerfs. Et vous souffrez aussi d'un goitre à la gorge. C'est exact. Levez la main. Vous dites ça, vous êtes très bien. Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas de cette région-là. Vous venez de Memphis. La dame assise à côté de vous, elle aussi, elle vient de Memphis. Croyez-vous de tout votre cœur, madame? Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Croyez-vous que je suis son prophète ou son serviteur? C'est la chope. Vous croyez que je suis son serviteur? Vous croyez-vous que je... Savez-vous bien que moi, je ne saurais rien dire à votre sujet? Croyez de tout votre cœur. Vous souffrez de... Vous avez un problème de gorge, vous aussi. Et une autre chose, vous avez... C'est un nodule, un tumeur au côté. Croyez-vous que Dieu peut me dire quel côté ça se trouve? C'est bien, c'est lever la main. Vous dites, elle se trouve du côté droit. Croyez-vous que Dieu peut me dire? Vous êtes Madame Cox. Croyez-vous tous maintenant? Voilà l'alliance confirmée à la postérité d'Abraham. Si vous pouvez croire, vous voyez. Tenez, il y a une petite dame étendue là sur la civière. M'entendez-vous, madame? M'entendez-vous sur cette fille? Oui. Je ne peux pas vous guérir. Je ne sais rien à votre sujet. Vous n'êtes peut-être. Mais croyez-vous que Jésus-Christ peut me révéler quel est votre problème? Est-ce que ça vous aiderait? Si vous restez là, vous mourrez. Vous n'avez qu'une seule chance, c'est d'accepter Christ. Vous avez un cancer. C'est exact. Croyez-vous que Dieu va vous guérir établi maintenant? Vous le croyez. Levez la main si vous le croyez, très bien. Dans votre situation, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de vous lever de ce lit, de prendre ce sur que vous êtes étendu et de rentrer chez vous en faisant valoir votre Dieu. Levez-vous. Au nom de Jésus. Ouais, et s'élève pour prendre possession de sa promesse en Dieu. Et les autres, levez-vous, vous avez de la force, Dieu vous donnera la force. Mettez-vous debout, la voilà debout, elle s'élève. La civière maintenant, les autres, ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ, mettez-vous debout. Levez-vous partout, acceptez Jésus comme votre sauveur. Jésus-Christ guérit chacun d'eux. Accorde le Seigneur.